Bonjour, shalom, salam alaikum. Lundi 18 septembre 2023, il sont 11h. Nous sommes heureux de nous retrouver dans ce studio et de nous connecter avec vous un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde entier par le biais des radios et autres médias partenaires. Canal FM, la nouvelle génération qui arrose Lomé et ses environs, mais également Radio Lumière depuis le sud-est du Togo à Anéro. Et depuis les plateaux à Takpamé, c'est Radio La Paix, la voix des plateaux. Pendant que Radio Sama FM nous relaie à Baga Niamtougou, on descend un peu à Sokoré avec Radio Centrale FM. Nous remontons à Bassa avec Radio Daoul et au Grand Nord avec Radio Courtoisie. Et par le monde entier, c'est les radios numériques, Radio Le Bénin et Bénin Radio, l'application Canal FM, même la chaîne YouTube par lesquelles vous nous écoutez, vous nous regardez même. C'est grâce aux techniciens Vitor Bekoku, Michel Tomenga et Jérôme Kodjo Akucha. Ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle, nous enseigne Françoise Sagan. Encore une fois, ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle. Soyons élégants ou élégantes dans cette vie. Peut-être que c'est nous qui allons faire la leçon, pourquoi pas. Harim Yao Tchanyao, le grand patron de Nouvelle Opinion, bonjour.
Sas, bonjour. Bonjour aux Togolaises et aux Togolais qui nous écoutent en ce moment. Bonne semaine de travail à tous.
Merci. Le menu aujourd'hui, c'est rentrée, au pluriel. Rentrée avec la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, qui va s'ouvrir cette semaine à New York, c'est aux États-Unis, avec en prélude à cette Assemblée générale, l'évaluation qui va être faite à mi-terme de l'agenda 2030 et les 17 objectifs du développement durable. C'était en 2015. J'avais le bonheur de me retrouver à New York quand ces 17 ODD avaient été adoptés, qui devraient être exécutés en 2030. Nous sommes à mi-terme et depuis les Nations Unies, on va procéder à l'évaluation à mi-terme. Nous allons également nous exercer à cette esquisse ici au studio avec Didier Kwamia Sogba qui vient de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Bonjour à l'aîné Tchanyao et neveu en plus, en studio. Bien de choses à tous ceux qui nous suivent.
C'est comme si c'est pour toi que j'ai choisi la pensée du jour quand François Sagan écrit que ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle. Toi, tu arrives dans ce studio en toute élégance.
Ben oui, il faut se faire plaisir des fois.
Tu as tout dit, se faire plaisir voilà. Des fois. Merci beaucoup. Rentrez toujours avec l'année scolaire 2023-2024. Le personnel enseignant et administratif a déjà repris le chemin des écoles aujourd'hui. Les apprenants vont suivre dans une semaine. Dans quelles conditions cela se fait? Quelles sont les bonnes volontés qui aident au bon déroulement de cette année scolaire 2023-2024? Nous allons en parler. Tout comme les nouveaux ministres qui prennent possession de leur charge, avec une ministre qui a déjà un petit baptême de feu. Suivez mon regard vers le commerce, avec ce qui a commencé comme perturbation de fourniture de carburant dans les stations-service. Qu'est-ce qu'il en est et comment est-ce que la ministre Kaïm Vedor Sambiani essaie de régler cela? Nous allons en parler. Et tout comme le Conseil national des patrons de presse qui opère sa rentrée en fin de semaine, le 23 septembre, ce sera l'Assemblée générale élective avec probablement le CONAP qui va se doter d'un nouveau bureau, pourquoi pas. Voilà le menu que nous abordons, le temps juste que nous souhaitons à notre aîné Jacques Laya Yakouti. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs auditrices de Canal FM.
Merci. Et naturellement, les auditeurs pourront entrer en ligne sur le coup de 12h. Sur les deux numéros, le 22 21 33 74, le 91 36 63 75, pour co-animer avec nous.
Oui, ça, si tu le permets, oui, je voulais sincèrement inviter ce matin les ministres et surtout les collaborateurs proches du chef de l'État, interpeller une fois encore notre ministre des Travaux publics sur les routes secondaires de notre pays, mm-hmm. notre capitale. Ça, c'était la croix et la bannière avant de rallier Canal FM ce matin. Mm-hmm. Il y a eu un petit accident quelque part, la voie était bloquée.
Sur quelle voie, s'il te plaît?
Vous prenez le tronçon, votre tronçon ici, là.
Hankope.
Voilà. Je crois que vraiment, il faudrait que le ministre des Travaux publics essaye de faire quelque chose par rapport aux voies secondaires. Ça ne va pas du tout. Quand il pleut dans notre capitale, il est difficile de pouvoir circuler. Hier, j'étais au niveau de Alenka, pour ceux qui connaissent un peu Lomé. Ça, vous ne pouvez pas circuler. J'ai vu une scène qui était vraiment déplorable. Voilà un Zemi Diaman qui a pris une femme qui avait son bébé au dos. Je crois qu'ils étaient en train d'aller au sein périphérique au niveau de Alenka là-bas. Je crois que l'homme de la moto ne savait pas qu'il y avait un trou mm-hmm. devant. Et finalement, il est tombé. Et l'enfant qui était malade, et le bébé, et la maman, et même le Z-man. Il a fallu que les gens courent
tout
de gauche à droite.
Tout le monde s'est trouvé renversé.
Renversé. Vraiment, madame des Travaux publics, s'il vous plaît, faites quelque chose sur le tronçon Alenka. Ça ne va pas du tout. Et les routes secondaires. Et invitez effectivement l'État, ne serait-ce que ça, bitumé, ou soit pavé une seule voie par an dans les quartiers. Je vous dis qu'on s'en sortirait grandi.
Merci. Je rappelle que c'est aujourd'hui qu'en prélude à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, on procède à l'évaluation à mi-terme de l'agenda 2030 et les 17 ODD. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que circuler sur une route en assez bon état, est-ce que ça ne participe pas aux ODD? Madame la ministre des Infrastructures, la situation dans notre pays vous interpelle. Et madame la ministre, je ne sais pas si vous avez des parents, des amis vers les quartiers Zopomahé. Et si vous êtes allé saluer des militants ou bien des parents ou des amis là-bas. Madame la ministre, je pense que si vous faisiez cette visite, au retour, vous alliez insister pour faire une communication en conseil des ministres pour qu'on vous dote des moyens pour soulager un peu les peines de nos compatriotes. Et ce que nous disons pour ces artères vaut pour toutes les routes secondaires. Je n'ose pas demander à Didier Assogba qu'est-ce qu'il en est du tronçon à Répé-Couvé.
Mais vous savez, j'ai été heureux de constater qu'il y avait une forte mobilisation des autorités gouvernementales et des présidents des institutions lorsqu'il s'était agi des obsèques de feu maître Yaouvi Agbeibo, et tous ont vu, ça ce n'est pas un débat de journalistes comme certains pourraient prétendre, tous ont vu à peu près de quoi il s'agit en ce qui concerne ce tronçon-là d'au plus 6-7 kilomètres qu'il faut juste arranger. Et j'ai souvent dit que pour ceux qui connaissent bien le Togo, le marché de Couvé qui s'anime le jeudi est un marché stratégique dans la préfecture de Yoto, en ce sens que Couvé se trouve un peu être au carrefour de toutes les localités. Vous voyez Yoto Kopé et tout ce qui est produit là vient directement au niveau de Couvé les jeudis parce que c'est le marché qui s'anime le plus proche le jour le plus proche dans la semaine, même si le marché d'AEP s'anime le mardi, c'est un peu plus loin de ces zones-là, de Boto et tout ça, toutes les autres localités où on cultive, où il y a un peu ce grenier-là agricole de notre pays. Donc, on trouve à peu près, depuis des années, on fait cette plaidoirie et on lance cet appel, mais rien n'est fait jusque-là. Je pense que le chef de l'État ou ses collaborateurs ou d'autres personnes nous écoutent et que quelque chose pourrait être fait. Le week-end, j'étais dans la préfecture de Agou, c'est ça? Agou, pour les obsèques, l'enterrement donc de l'ancien directeur, enfin, préfet. L'ancien préfet à Tabou. Je ne vous dis pas que personne ou à un moment donné, les gens ne pouvaient plus convoyer leur véhicule jusqu'au village du feu préfet parce que la route n'était même pas tenable. Le pont qui était sur la rivière là-bas pour qui donne accès au village, il n'était même pas possible de pouvoir oser. La plupart de la délégation qui était là-bas ont dû garer sur la nationale qui va à Palimé, et des gens ont pris pied aux émigrants pour aller dans les funérailles. Donc quand on parle des routes de nos localités, que ce soit Lomé, que ce soit à l'intérieur du pays, je pense que c'est la même chose. Des efforts sont faits, des routes ont été construites, mais je pense que ce qui reste à faire est encore plus grand que ce qui a été fait.
Merci. C'est ce que nous rappelle à chaque parution le confrère Méga Info. À chaque fois que Méga Info paraît, ce journal mentionne toujours dans l'angle droit que la route au premier plan du développement. Et dans ce sens, le confrère, le détective paru aujourd'hui, écrit lui aussi « Désenclavement des localités rurales, la nécessité d'un pont sur le lac Togo ». Et je m'en vais vous rappeler les 17 objectifs du développement durable. Pas de pauvreté, faim zéro, bonne santé et bien-être, éducation de qualité, égalité entre les sexes, eau propre et assainissement, énergie propre et d'un coût abordable, travail décent et croissance économique, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite, ville et communauté durable, consommation et production responsable, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, vie aquatique, vie terrestre, paix, justice et institutions efficaces, partenariat pour la réalisation des objectifs. Voilà les 17 ODD rappelés. Aujourd'hui et demain, Ari Miaou, à New York aux Nations Unies, les chefs d'État et de gouvernement, les plénipotentiaires, vont procéder à l'évaluation à mi-terme des 17 ODD qui ont été adoptés en 2015 avec agenda 2030. Mais ce matin, j'ai écouté sur certaines radios internationales d'aucuns évaluer l'exécution des 17 ODD à au plus 15% quand nous sommes à mi-terme. Ari Miaou.
Non, bon, je crois que tout ce que vous avez énuméré sur les 17 points, ce n'est que des urgences un peu partout. Et les pays marquent la volonté, y compris par exemple au Togo. Vous avez parlé de l'éducation, de qualité, vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de la santé. Et quand vous regardez les chapelets de programmes que les différents gouvernements du monde égrènent, au menu de ces chapelets-là se retrouvent tous les 17 points. Maintenant, comment trouver les moyens nécessaires pour aller s'acheminer vers l'accomplissement de tous ces points-là? C'est ça le problème. Et je crois que chaque pays essaye de faire l'effort qu'il faut. Et au Togo, si vous prenez les 17, vous allez voir que quelque part, il y a une amorce. Et il y a cette volonté d'aller au bout et de réaliser tout cela pour que les populations se sentent beaucoup plus à l'aise. Les efforts se font. Maintenant, il faut que les moyens viennent de partout. Je sais que il y a les bailleurs, il y a les partenaires, les investisseurs de tous les pays qui contribuent à faire à ce que les ODD là soient réalisés. Vivement que tout puisse se réaliser pour que les pays décollent et qu'on puisse atteindre un seuil souhaité au niveau des Nations Unies.
Merci. Pour terminer avec les ODD, Liberté également, qui attire notre attention sur l'un des pôles des ODD, à savoir pas de pauvreté. Et Liberté nous transporte dans la préfecture de Yoto. Avec ce titre, Yoto, une préfecture minière riche, mais pauvre et oubliée. Ce que Liberté écrit dans Yoto, il peut l'écrire dans Vaux, dans Zio et dans les lacs, avec les carrières et les usines des phosphates, les populations que Dieu a installées sur un trésor. Mais allez demander aux populations de Zio, notamment à Kpome, Lebe, allez à Haoteu, à Kumapé, à Dagbati, allez à Sevagan, allez à Godrafo, allez à Kpeme, et demandez à ces populations s'ils vivent sur l'or, ou bien qu'est-ce qu'il en est. Et ce que nous disons pour Yoto, pour Vaux, Zio et Lac, ça peut valoir également pour les autres zones minières, Bangeli et le Bassa, qui ont inauguré le fer, chantier d'ailleurs abandonné. Bangeli est retombé dans sa torpeur. On nous annonce le chantier imminent de manganèse à Naega, Jacques Djakouti. Espérons et prions que Naega ne connaisse pas le triste sort des populations de Vaud, de Ziod, de Yoto et consorts.
Je suis d'accord avec vous. Vous savez, ce que nous déplorons souvent sur la situation de ces localités, souvent où on essaie de découvrir des potentialités par rapport aux minerais, c'est que souvent les populations ne sont pas associées. C'est ce que nous avons constaté. Même si les populations sont associées, c'est que les vrais décideurs de ces localités ne sont pas associés pour le développement de ces localités. C'est ce que c'est le constat. Parce qu'on ne peut pas imaginer, pour ceux qui connaissent Tablugo, parce que moi j'ai fait mon enfance depuis 76 à Tablugo, je connais, j'étais retourné la fois passée, j'ai vu que...
C'est la même chose, ou même pire.
Rien n'a évolué. Je me suis posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les cadres du milieu qui ne s'organisent pas? Est-ce que on verse les ristournes et que certains sont assis sur ces ristournes? Vraiment, il y a des questions à se poser. Vous ne pouvez pas imaginer que dans tout Yoto, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a aucune route bitumée. Je ne sais pas si maintenant, après l'enterrement du mois passé, si peut-être le mois présent, ils sont en train de bitumer une voie, je ne sais pas. Mais il n'y en a pas.
Enfin, je suis allé jusqu'à Tometi Kondji il y a un mois et demi. La route goudronnée qui traverse Yoto part de Tchévier jusqu'à Nehor.
C'est ce que moi j'appelle généralement la route du clinker ou du calcaire, si vous voulez. C'est la route qui sert juste à prendre le clinker et à sortir de la préfecture. C'est pas une route pour la préfecture. C'est vrai que ça passe par Tchépon, ça passe par Arépé, ouais. Et ça va directement à Tablugo et ça retourne vers Aménina. Et donc c'est parti, c'est de l'autre côté, de loin comme de l'autre côté de l'entrée de la préfecture. Cette route là, c'est la route circulaire et c'est la même route d'ailleurs, nation numéro 34 ou quelque chose comme exactement. Ça. Que ce soit par Aného ou que ce soit par Tévier, c'est le même nom, la nationale numéro 34. Ça sert juste à sortir la richesse là de la préfecture et puis paf, le reste de la préfecture là, ça ne concerne personne.
Merci.
C'est dommage.
Entre autres localités enclavées, si vous connaissez à Bobo. Bobo dans le sud de Zio ici. Oui. À Bobo, le chantier de phosphate va vers là. Il se fait que la ministre déléguée en charge des mines et de l'énergie est ressortissante d'Abobo. Mais dites-moi, si vous voulez aller à Bobo, quelle route vous empruntez? Alors si madame Aziamblé veut aller voir ses parents, quelle route elle pratique? La dernière fois, ils avaient à leur fête traditionnelle. Quelle route, madame la ministre, a pratiqué pour aller commémorer avec ses frères et sœurs?
Les 4x4.
Alors?
Ils ont utilisé les 4x4 pour aller là-bas.
Et elle en est repartie. Ah, et ses parents, alors?
Ah bon.
Je rappelle encore qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on procède à l'évaluation en mi-terme des ODD depuis New York. Nous sommes dans ce studio, mais nous esquissons également ce petit bilan. Arrive Miaou.
Non, bon, je crois que la question du bitumage des routes et des artères un peu partout sur le territoire, c'est général. Mais je crois que le gouvernement aussi fait des efforts pour que certaines routes, certaines pistes soient rechargées. C'est vrai que quand vous parlez de Yoto, mais allez dans les autres préfectures, en dehors des grandes villes que les nationales la traversent, il n'y a pas de bretelles qui ont été bitumées. Mm-hmm. Je crois et j'ai foi que le gouvernement a ça dans son programme de faire en sorte que d'ici peut-être l'an 2030, on puisse commencer par bitumer ces bretelles-là, ces routes de nos villages et de nos cantons. Rien n'a été fait dans ce sens depuis, mais on essaye de temps en temps de recharger ces routes-là. Le temps que peut-être on trouve les moyens de bitumer les artères des grandes villes et qu'on en vienne à faire l'essentiel à ce niveau-là. Mais si la volonté y est, je me dis qu'on va y arriver et il faut quand même que de temps en temps, nous aussi, on attire l'attention des uns et des autres.
Bon, c'est ce que nous faisons juste.
À la ministre.
Nous attirons l'attention des décideurs. Ils intègrent ces préoccupations dans leur agenda.
Écoutez,
que le Togo décolle
Il y a deux semaines, je suis allé dans Badou. Vous avez une très bonne route jusqu'à Daïkonta, Kedjebitou, la route est goudronnée. Mais vous passez la ville de Barou, vous avez le goudron. Mais vous n'avez plus la possibilité d'aller dans aucun village. Mm-hmm. Vous ne pouvez pas. D'ailleurs, si c'est que c'est des cabosses ou des cailloux, c'est différent. Mais vous vous embourbez. Et Dieu seul sait comment vous allez faire pour vous en sortir. J'ai voulu essayer d'aller à Tomogbe. J'avais connu, j'ai fait mon enfance dans un village à Nonoué. J'ai voulu y aller pour voir l'école où j'avais fréquenté. Il n'y a pas de route. Impossible. Vous ne pouvez pas y aller parce que c'est impossible. Donc, je crois que tout cela est connu de l'État et que quelque chose est en train peut-être d'être préparé parce que l'État aussi a la volonté et l'envie de permettre aux Togolais d'aller rallier leurs familles qui sont restées des autres côtés du pays. Et
donc, vivement, voilà. Vivement. Nous enchaînons avec le vieux constaté. Didier, quand tu étais aux obsèques de feu Tabou, j'espère que tu n'as pas eu panne sèche à Agou. Est-ce que tu sais que la préfecture d'Agou n'a pas de station-service?
Oui, après NEP, je n'en ai pas vu. Et c'est compliqué même des fois de se fournir en carburant sur cette voie. Si vous n'en avez pas jusqu'à après... après Kévé à Samou,
oui.
Il n'y en a plus. Donc,
je crois qu'il y a quelque chose à Mouzoukopé.
Oui, mais qui n'a de nom que de station-service.
En tout cas, le vieux constaté, c'est que la préfecture d'Agou, chef-lieu Agou Gadjefé, n'a pas de station-service.
Ouais.
Est-ce que c'est normal? Si l'État ne le fait pas, est-ce qu'il n'y a pas un opérateur économique? Est-ce qu'il n'y a pas un ressortissant de la riche région d'Agou qui peut prendre l'initiative de doter Agou de station-service? Et nous enchaînons avec...
Non, j'ai vu que Capesso a actuellement déroulé un projet de construction de cette station d'essence vers également l'intérieur du pays.
Je crois que bientôt... Mais nous parlons du cas d'Agou.
Oui, Agou sera servi. Quand vivement, vous voyez par Capesso...
Et j'espère que quand Agou sera servi en station-service, cette station sera vraiment alimentée pour fournir les clients parce que le week-end... Hier et aujourd'hui, on peut l'appeler, hein, sans se tromper, qu'il y a une forme de pénurie de carburant dans les stations-service. Vous avez vu un peu les queues
oui.
Devant les stations-service. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons contacté le ministère en charge du commerce. Et puis, dans la foulée, il y a ce communiqué qui est sorti et que nous vous livrons in extenso. Communiqué du ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation Locale. Le ministre de du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation Locale porte à la connaissance de toute la population togolaise que suite à un retard dans la livraison des produits pétroliers, des perturbations sont constatées dans l'approvisionnement de certaines stations-service sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les dispositions ont été prises pour un retour progressif à la normale ce lundi 18 septembre 2023. Par ailleurs, le gouvernement rassure la population que les prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucun réajustement. Par conséquent, il invite les responsables des stations-service au respect scrupuleux des prix en vigueur depuis le 28 janvier 2023. Des contrôles seront faits ainsi de suite. Mais Jacques Djakouti, tu as certainement pris connaissance de ce communiqué du ministère qui arrive 24 heures après que nous avons commencé à souffrir pour nous fournir en carburant.
Oui, c'est ce que nous appelons souvent un médecin après la mort. Vous voyez, depuis hier, vers, disons, 13 heures, que le problème a commencé. Et à partir de 22 heures, mais c'était encore pire. Et c'est ce matin que le ministre du Commerce publie un communiqué. Ouais, il faudrait que nos ministères soient proactifs par rapport à certaines situations. Nous avons vu la LCT qui a publié un communiqué depuis hier nuit pour expliquer aux populations. J'ai vu également que l'honorable député Geritam a également tweeté pour expliquer la situation, mais on attendait effectivement le comité du gouvernement, surtout le ministre du Commerce, pour situer la responsabilité et dire aux populations ce qui se passe. Ça, c'est hier. Vous allez remarquer que le prix de litre d'essence a été vendu à certains endroits à 1500 francs. Parce que les populations étaient obligées. Les gens n'avaient pas de choix.
Mais la spéculation, là, ce n'était pas aux stations-service.
Oui, non, mais je parle des vendeurs de boudin.
Okay.
Ceux qui vendent au bord de la route. Parce qu'au niveau des stations d'essence, il n'y avait pas de carburant. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui... nous sommes dans un monde aujourd'hui numérique. Et les informations fusent de partout. Il ne faudrait pas encore qu'on attende cette communication, dite communication classique, pour pouvoir communiquer. Du moment où on sait qu'il y a pénurie, il faudrait que le gouvernement réagisse. Vous voyez, donc je crois que on ne peut pas trop s'acharner sur ce communiqué, mais il faut reconnaître que le communiqué est venu un peu tard. C'est trop tard ce communiqué-là. Et l'autre aspect, vous voyez ce que la ministre a dit dans ce communiqué pour dire que non, il ne voudrait pas que les stations d'essence augmentent le prix, mais sont en train de le pratiquer. C'est en train d'augmenter les prix. Si tu veux, tu achètes. Si tu ne veux pas, tu t'en vas. C'est ça le problème aujourd'hui. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui que le mécanisme, le problème aujourd'hui, l'activation par exemple des prix au niveau des pompes. Lorsqu'il y a par exemple un problème, que le gouvernement prenne le devant de pouvoir communiquer pour situer la population. Hier, je vous dis, moi j'ai vu des gens qui allaient vers Thiéville et qui sont bloqués. Parce qu'ils vont à telle station, parce qu'ils allaient à un mariage. Telle station dit qu'il n'y a pas de carburant. Les gens, ils étaient obligés de s'arrêter. J'ai vu toute une queue de relais. Les gens étaient obligés de prendre relais pour aller chez vous, pour aller assister à un mariage. Et pire encore, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, il a plu. Finalement, les gens, le mariage, ils n'ont pas pu assister. Vous voyez? Donc, je crois qu'il faudrait que le gouvernement prenne effectivement les taureaux par les cornes. Lorsqu'il y a une situation, communiquer pour que les populations soient effectivement situées par rapport à ce qui se passe.
Oui, Harry Miaou, c'est ce qui est arrivé hier. Le communiqué du ministère n'est sorti que ce matin, alors que déjà hier, le député Jerry Taman avait tuté pour dire que c'était un retard de bateau. On nous a dit que le Togo commande ses cargaisons de carburant par trimestre. Et il semble, et on le dit également, que gouverner, c'est prévoir. Comment est-ce que le retard d'un bateau peut occasionner cette pénurie de carburant quand au gouvernement, on sait que le pétrole est un produit des plus stratégiques?
Non, bon, ça me fait l'impression d'être tenté de dire que c'est comme à chaque fois qu'on change le ministre à ce département, il y a de ces petits problèmes qui naissent. Je crois qu'il y avait eu entre-temps les mêmes choses. Ou quand DJ est arrivé, il y avait ces petits problèmes de crise de carburant et de pétrole. Et aujourd'hui, si on le vit, je m'en voudrais peut-être, j'en voudrais au gouvernement par rapport à son communiqué. Si aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous sommes ici, il n'y a pas de carburant. Parce que je me dis que hier, il serait dans les tractations et Jerry Taman, qui avait déjà l'info, a informé la population. Mais avec ce communiqué, si jusqu'à ce midi ou dans l'après-midi ou bien on n'a pas le carburant, ça va être un peu
quantité.
Compliqué. En quantité, parce que là, je me dis que hier, on est dans les tractations, on cherche à trouver la solution avant de s'adresser aux populations. Maintenant, je crois qu'on a trouvé tout. C'est pour cela qu'on a communiqué. Et on nous a rassuré que dans la journée d'aujourd'hui, on aura le carburant. Jacques a dit que des gens sont allés. Moi, je connais des gens qui devraient voyager aujourd'hui pour des enterrements. Vous connaissez les musulmans, quand il y a décès, c'est rapide. Ils n'ont pas pu voyager parce qu'il n'y a pas de carburant. Et si le gouvernement communique et dit qu'aujourd'hui, on aura ce carburant, on ne l'a pas, là, il y a problème. Parce qu'il vaut mieux même ne pas communiquer, donner de précision que le carburant viendra aujourd'hui et que de le dire et qu'on ne l'ait pas. Je crois qu'on a pris tout le temps d'organiser tout, d'arranger tout, de manager tout avant de passer ce communiqué. Et vivement que le communiqué là, les actes ou bien les faits accompagnent ce qui a été dit dans ce communiqué pour que les gens aient le carburant, parce que le carburant, c'est la base même du développement. Quand il n'y a pas de carburant pour que les gens se déplacent, les gens ne vont pas pouvoir aller au service. Imaginez des gens qui habitent Vaughan, qui viennent travailler à Lomé et qui n'ont pas pu trouver de carburant. Ils vont marcher de Vaughan, venir à Lomé, il y en a qui quittent un écho. Donc il faut rapidement que ce carburant-là soit disponible pour qu'on fasse foi à ce que le gouvernement a donné comme communiqué. S'il n'y a pas carburant, je crois que ce communiqué est vraiment un communiqué alambiqué. Il y a problème à la
destruction. Merci. Ceux qui marcheraient de Vaughan à Lomé, je les félicite. Mais quant à ceux qui marcheraient de Lomé à Kéoa, je ne sais pas dans combien de semaines ils vont arriver. Alors, un auditeur qui nous suit, Didier, l'auditeur écrit que Madame Rose Kaïm Evedor, épouse Ambiani, vient d'avoir son baptême de carburant. Et puis, je reviens à son communiqué qui dit que les prix, le gouvernement rassure la population que les prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucun réajustement. Là, il va falloir que le gouvernement non seulement fasse fournir le carburant au plus tôt et en quantité, mais également que le gouvernement s'assure que auprès des stations-service qu'il n'y a pas une spéculation sur le dos des consommateurs.
Mais tu as tout dit et tu as dû suggérer au gouvernement. Et on constate que jusqu'à ce que nous rentrons dans ce studio, il n'y a pas de retour à la normale. J'ai vu plein de stations en venant. Il y a même des fois même débordement jusque sur la route. Et c'est très compliqué de trouver de carburant. Vous pensez qu'à des accidents, vous voyez l'agglutinement, le rassemblement des gens qui cherchent le carburant, c'est compliqué. Même si le bateau est arrivé, ainsi que le gouvernement l'a promis, il n'y a pas de retour à la normale. Et là, on apprend qu'il y a une nouvelle situation qui s'ajoute à la situation connue. C'est que les conducteurs de camions qui devraient livrer le carburant aux stations, donc servir les stations, menacent de partir en grève ou jusque-là n'ont pas commencé à livrer non plus. Donc ça veut dire que le retard, à part le retard du bateau, comme dit, il y a une nouvelle situation avec les chauffeurs qui ne sont du tout pas contents de eux, leur situation également. Donc naturellement, comme eux aussi, c'est leur moment, c'est le seul moment où on a besoin d'eux au plus tôt. Ils veulent profiter de la situation eux aussi pour se faire entendre. Donc ça veut dire que jusqu'à midi, au moins, tout au moins, il n'y aura pas de retour à normal juste dans les stations. De moins, quand moi je venais dans ce studio à 11h, il n'y a pas encore de retour à normal parce qu'il n'y a qu'à voir dans les stations comment c'est compliqué. Mais espérons que, ainsi que le gouvernement l'a dit, l'a promis, jusqu'à la fin de la journée, que quelque chose soit fait. S'il y a des situations difficiles avec les chauffeurs ou d'autres personnes, qu'on règle rapidement pour que la population ne soit pas punie par, je veux dire, Harry Mia le disait tout à l'heure, c'est comme si quand on change de ministre, il y a des choses qui ne vont pas. Et également, vous avez bien fait de rappeler que le gouvernement nous a dit qu'on commande le carburant par trimestre. Mm-hmm. Alors, si on commande le carburant par trimestre, d'où vient-il que le bateau est en retard et qu'aujourd'hui...
Et nous avons un port en eau profonde,
justement,
que nous chantons beaucoup, et il y a beaucoup de tankers qui viennent mouiller au large de notre port. Comment on peut expliquer que le retard d'un bateau soit cause de ce phénomène de pénurie que vous
avez? Oui, on ne sait pas si c'est parce qu'un ministre est parti que, je ne sais pas, qu'il y a eu un souci, mais si c'est parti, on avait fait la commande depuis 3 mois. Je ne pense pas que le bateau va prendre 3 mois pour arriver. Donc, du coup, peut-être c'est une communication. Et en matière de communication, on sait comment habiller un certain nombre de difficultés. Mais l'essentiel, et ce que nous, population togolaise, nous demandons, c'est que au moins, ou plutôt, que la situation soit réglée, tant avec le bateau, tant avec les conducteurs, les conducteurs de camions, pour que d'ici quelques heures, on puisse avoir accès au carburant pour ne pas avoir des difficultés dans le pays. Parce que là, pour finir, vous avez vu le prix des transports qui connaissent des difficultés. Oui. Donc, tant qu'il y a moins de émigrants qui peuvent circuler, moins de voitures qui peuvent circuler, les quelques-uns qui circulent encore, ils font de la spéculation sur le prix du transport aussi. Et les quelques-uns qui ont un peu de carburant font également de la spéculation, un peu de chantage aussi dans certaines stations-service. Donc, vous voyez ce à quoi on assiste depuis...
Merci vivement qu'il n'y ait pas de spéculation sur les prix des carburants.
Mais ça, si tu permets.
Le journal Le Correcteur attire l'attention de Madame Mivedoy, de tout le gouvernement, sur un autre produit pas moins stratégique. C'est le gaz de cuisine. Et à ce sujet, Le Correcteur écrit: prix exorbitant du gaz togolais dans la sous-région, le summum de la misère imposée au peuple. Jean Jacouti, vivement qu'il n'y ait pas de spéculation sur le carburant, mais également que le gouvernement nous invite à aller au gaz en revoyant un peu le prix à la baisse. D'autant plus que nous suivons un peu les fluctuations du marché international, ni le baril, ni le gaz, ni le dollar ne flambent plus, plus tellement depuis quelque temps.
Je suis d'accord avec vous, mais je crois qu'il faudrait que le ministère du Commerce puisse revoir leur communiqué. Parce que, en analysant ce communiqué ne tient pas la route. Parce qu'on ne peut pas parler du retard de la livraison. Vous avez bien fait d'expliquer que le Togo fait toujours son stock d'une façon trimestriellement, on peut le dire. Comment le retard peut venir encore et que le Togo ne puisse pas avoir les stocks pour livrer effectivement le pétrole aux populations? Il y a un problème. Je crois que le communiqué, là, ils doivent revoir effectivement ce communiqué. Soit, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Mais parler du retard de la livraison, Ça, c'est autre chose. J'ai lu également le titre de Geritama, qui parlait d'une perturbation peut-être au niveau de la mer, mais c'est faux. On ne peut pas parler d'une perturbation quand on sait que c'est des tankers. Un tanker, ce n'est pas un bateau où le vent peut à tout vent déranger. Donc je crois qu'il y a...
Mais attention, on a eu des tornades tropicales dans la Méditerranée.
Non, ce n'est pas ça. Non.
Le Moyen-Orient, non.
Ne nous amenez pas sur ce terrain. C'est-à-dire que peut-être, moi j'ai dit, il y a quelque chose qu'on nous cache. Il faudrait que dans les jours à venir, comme le ministre même l'a si bien dit, il ne faudrait pas que demain, après ça, on nous dise non, qu'on va augmenter encore le prix du litre au niveau des stations. Parce qu'on se connaît. C'est comme ça que ça commence. Après, on dit bon, on va augmenter. Après, on dit non, le dollar a monté. Mais alors qu'on sait qu'actuellement, effectivement, le dollar a monté depuis un certain temps. Quand vous voyez un peu la courbe sur les transactions, vous voyez que le dollar a quand même monté par rapport également à l'euro. Donc, je crois que il faudrait qu'on nous situe sur ce qui se passe réellement. Tchagnao et l'autre parlaient du changement de ministre, mais vous savez, c'est une continuité de l'État.
Oui.
Même si l'autre est parti hier, l'autre qui vient, les mêmes structures sont là. Il est vrai également que depuis hier, certains ont dit que le Togolais qui était là, qui commandait également les pétrons, qu'il paraît que le Togolais n'est pas sur que le Togolais là a voyagé, n'est pas là, que peut-être c'est ça qui constitue également ce problème-là. Mais je dis non, il y a une continuité au niveau de l'État. Même si X n'est pas là, Y est obligé de continuer le travail, parce qu'on sait le rôle que le pétrole joue, le carburant joue dans l'économie d'un pays. Donc on ne peut pas nous parler aujourd'hui du retard, mais je crois que s'il y a autre chose qu'on nous cache, il faudrait qu'on le dise. Mais il ne faudrait pas également, à travers cette situation, que demain, on nous dise encore qu'on va augmenter le prix du carburant. Et l'autre aspect, vous avez bien fait de souligner, le prix du gaz. C'est vrai, Sass. Je ne peux pas comprendre qu'on nous dise aujourd'hui que le gaz est cher au Togo, que le gaz butane. Vous prenez aujourd'hui Tiwel. Tiwel également produit aujourd'hui le gaz. Mais on sait, Tiwel n'appartient plus effectivement aux Français dans le temps. Aujourd'hui, ça appartient aux Togolais. Donc, ce qui veut dire que le prix du gaz devait plutôt diminuer. Vous prenez également monsieur, je crois que c'est Gagou, qui fait également qui produit également du gaz. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui que l'État puisse faire un répertoire par rapport à ce qui produit aujourd'hui ce gaz là, parce que cela ne vient plus de l'étranger, mais c'est nous-mêmes qui produisons notre propre gaz ici. Donc cela ne va pas du tout coûter. Et l'autre aspect, c'est que ce que nous constatons, du moment où certains, on a appris que certains se sont constitués pour la livraison également du gaz, il faudrait que l'État puisse mettre également, avoir son œil sur ça. Et pour que cela puisse diminuer et profiter effectivement aux populations. Parce que je vous dis, certains de nos compatriotes continuent toujours d'aller au Ghana pour se faire pour acheter leur gaz.
Oui.
Vous voyez, donc je crois qu'il faudrait que cet aspect également soit revu.
Ce qui est de la production du gaz au Togo, je pense qu'il faudra peut-être nuancer. Peut-être que les opérateurs là liquéfient ou raffinent le gaz ici, mais il ne sait pas si le Togo a des chantiers où nous produisons, où nous exploitons nous-mêmes le champ de gaz. Parce qu'il y a cette polémique pour certains, ils continuent à croire ou à dire que le Togo produit du pétrole et du gaz. Donc il faut nuancer. Les opérateurs que Jacques a cités, peut-être ils importent le gaz qu'ils liquéfient ou bien qu'ils raffinent ici. Oui, Arimia,
non, mais moi je voudrais dire que ce que Jacques dit, mais c'est des privés, c'est des opérateurs privés.
Tiwel n'est pas privé.
Bon, moi je n'en sais rien, mais quand vous parlez de
Sodigaz. Je dis gaz, je dis c'est un compatriote qui le fait.
Oui,
qu'on devait subventionner.
Voilà, je voulais dire
que
l'État devrait les subventionner.
Bien sûr.
Mais si moi je suis particulier, je me débrouille pour amener du gaz au pays, ça me vaut le coup que ça me vaut, je ne peux pas venir faire du social si on ne me subventionne pas. C'est pour cela que j'ai dit que donc Jacques a bien fait de rappeler que Tiwel, c'est pour l'État, je n'en sais pas trop.
On a appris que c'est un consortium de personnes.
Oui, mais si l'État les subventionne, ils vont revoir les prix. Mais si l'État n'apporte rien, ces gens-là vont vendre ça au prix pour dégager des bénéfices.
Merci. Donc, bon baptême de carburant à Kayi Rose Mivedor. Et les autres ministres nouvellement entrés en fonction, comme Awate Odabalo, qui a déjà pris ses charges depuis la semaine passée, deux journaux s'intéressent à lui. Togo Matin qui écrit « Administration du territoire, Awateo Dabalo propose un partenariat pragmatique avec tous les acteurs » et que Mega Info écrit lui aussi à la page 6 hein, « Toujours administration territoriale, Odabalo Awate privilégie dialogue et concertation ». Mais pour l'ensemble des nouveaux ministres, le confrère détective écrit que les Togolais restent entre espoir et pessimisme. Mais nous passons rapidement sur ça et nous abordons à présent la rentrée. La rentrée scolaire 2023-2024, comme nous l'avons dit, aujourd'hui c'est la rentrée administrative avec le personnel administratif et le corps enseignant qui vont préparer le terrain. Et dans une semaine, c'est les apprenants qui vont entrer en classe. À ce niveau, le confrère Mega Info écrit « Le Togo annonce l'enseignement de l'anglais au préscolaire et au primaire, ceci dans le sens d'accroître les performances linguistiques de nos apprenants. » Nouvelle opinion, Harry Miaou, ton journal aussi s'intéresse au sujet. Quand tu écris cela à la page 4, « Professeur Kokoroko, dans la réalité du Commonwealth, apprendre l'anglais désormais à partir du préscolaire. » Et puis concrètement pour la rentrée, il y a de bonnes volontés qui aident, dont déjà il y a une semaine nouvelle opinion nous parlait de monsieur Larry Benjamin, oui, qui avait offert des kits scolaires et autres aux apprenants aux élèves des préfectures de Thône, oui, et de Saint-Cassé. Aujourd'hui c'est l'ancien ministre Alex Arzouma,
ancien député Alex Arzouma,
qui offre des fournitures scolaires à 624 élèves, soit au moins déjà deux écoles pleines, hein, 624 élèves déplacés internes et externes des cantons de Pognon, de Tambonga et de Papri. Ça, c'est pour action de solidarité, c'est quand même au moins à noter.
Je crois que pour ceux qui ont cette volonté de faire des dons pour les enfants vulnérables et les familles démunies par rapport à la rentrée académique a commencé aujourd'hui.
La rentrée administrative
a commencé aujourd'hui. Il va falloir que ces gens-là essayent d'aller donner ce qu'ils ont durant cette semaine. Parce que j'ai toujours dit que quand les gens entendent que les cours démarrent de deux ou trois semaines, d'un mois ou de deux mois avant d'aller faire ces dons, ils n'auraient servi à rien ces dons-là. Parce que même dans leur vulnérabilité, aucun parent ne laissera pas son enfant faire trois semaines ou quatre semaines de cours sans aller emprunter ou se suer ou se tuer, se saigner pour donner le nécessaire pour que l'enfant fasse. C'est pour cela que je voudrais féliciter des gens comme Larry, des gens comme Alex Arzouma qui ont cette vision de donner à temps pour que les enfants puissent effectivement bénéficier. Et celui dont nous parlons, je ne crois pas que c'est la première. Il est de Pendjal, et quand on dit Pendjal, tout le monde sait ce que c'est. Il faut que des gens multiplient de ces actions-là vers cette préfecture que tout le monde connaît par rapport à ce qu'elle vit, par les temps qui courent. Donc, félicitations et beaucoup de courage et d'encouragement, et que de bonnes volontés se manifestent dans d'autres préfectures, dans d'autres villages, dans d'autres cantons, même à Lomé ici. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on les assiste, qu'on les appuie. Et tous ceux qui sont nantis, qu'ils comprennent que vaut mieux faire du bien avec ce qu'on a que de le garder et un jour partir le laisser. C'est très important parce que quand vous en avez de trop, vous en avez beaucoup et vous ne pensez pas aux personnes vulnérables, un jour viendra où celui qui est plus fort que nous, celui qui a créé tout, vous rappelle et vous partirez sans.
Justement, Rémi, dans ce sens-là, le Tout-Puissant qui nous a créé nous exhorte à la charité.
Oui.
Les chrétiens sont invités. Il y a même une organisation, l'OCDI, l'Organisation pour la charité, développement intégral. Chez vous, je crois, les musulmans, vous parlez de Zakat.
Zakat, oui.
Et sûrement, Jacques, je ne vais pas prêcher à un pasteur. La charité pour se porter aux côtés des écoles et des élèves démunis. Comme Marie Néo le dit, nous avons encore une semaine pour le faire. Larry Benjamin et Alex Arzouma le font déjà dans leur tône et dans leur savane. La semaine passée, c'était une bonne volonté de l'ONG Ebenezer qui allait faire de même à Vaughan pour les élèves de Koutimé Consort. Mais il faut également le dire, il y a quelques jours, nous avons appris que le chef de l'État, a également offert tout un lot de fournitures. C'était à Thiévier et ce lot-là devrait être distribué un peu partout dans le Togo. Mais au-delà de la couleur politique, c'est quand même une bonne volonté, enfin, c'est quand même de bonne volonté qui aide les enfants démunis à avoir une année scolaire assez normale. Jacques.
Oui, vous savez, chez nous, on dit souvent que la mère qui donne, c'est elle qui est bénie. Donc, je crois que pour ceux qui ont compris cet adage et qui sont en train de faire les œuvres pour aider effectivement les plus démunis, il faut vraiment implorer la grâce de Dieu. C'est pas facile aujourd'hui. Vous savez, donner également, c'est un don, hein. Si vous n'avez pas un don de donner, vous ne pourrez pas également le faire. Ceux qui ont compris le fait de donner, en retour, ils sont également bénis. Quoi que la rentrée, c'est la semaine prochaine. Ceux qui veulent le faire, par exemple, chez moi, dans notre église, le mercredi prochain, nous allons également faire ce don-là aux plus démunis pour leur aider effectivement ces élèves à reprendre les classes. Je crois que chacun à son niveau, chacun le fait. Je crois que vous avez parlé du chef de l'État. Oui, il a fait également, j'ai vu un peu, j'étais dans une localité où les gens étaient rassemblés, je posais la question, on m'a dit non, que c'est un don du chef de l'État. C'était vraiment bien. Je crois qu'il y a également des ministres qui le font. Je me rappelle également de l'actuel ministre d'État, ministre Yark, également, qui a fait un don dans sa localité pour aider effectivement les élèves à reprendre également les classes.
Les élèves, surtout les élèves déplacés par la force de la situation que nous connaissons.
Le général Yark a également fait vraiment un don inestimable dans cette localité pour aider également ces élèves-là à reprendre effectivement le chemin des classes. Donc je crois que c'est une bonne chose. Comme Arim Yao l'a dit, vous savez, c'est vrai. Vous savez, vous ne pourrez trouver jamais quelqu'un qui vous dira qu'il est rassasié de l'argent. Hein. Ce que je sais, c'est un cadavre qui dit qu'il est rassasié de l'argent.
Mais tant que vous. Tu n'as pas interviewé un cadavre?
Non, le cadavre, tout ce que vous lui donnez, lui ne sait plus. voilà, c'est ça quoi. Donc je crois que il faudrait aujourd'hui que les gens puissent quand même aider effectivement les plus démunis à effectuer cette rentrée là.
Merci. Au-delà de la solidarité, soit dit en passant, nos pensées à l'endroit des orphelins que nous laissent les confrères journalistes, hein, les enfants de James Kounaké, de Tchakala, Lucien Josu Mensah, et qui encore, Joël Kossivignon Ega, les Holonou, tous les confrères que nous avons perdus. Oui. Espérons que les membres de la famille, et surtout de la grande famille de la presse, que nous continuons à penser aux enfants que nous laissent nos confrères disparus. Et Didier, au-delà de la solidarité, la grande révolution, petite révolution cette année, c'est l'anglais qui va commencer à être enseigné dans le préscolaire, le primaire. Et le ministre Kokoroko a sorti une note dans ce sens-là. Mais ce n'est pas toutes les écoles. Hein. Il y a des écoles pilotes, aussi bien publiques que privées, laïques ou confessionnelles, dans lesquelles on va expérimenter l'introduction de l'anglais au CP.
Oui, je crois que on avait attendu donc cette introduction de l'anglais dans les écoles togolaises notamment depuis l'année dernière, depuis l'entrée du Togo au Commonwealth. Ça faisait partie des réformes qu'avait initié donc le ministre en charge des enseignements primaires, secondaires, techniques, professeur Kokoroko. Et donc des initiatives ont été prises, des rencontres ont eu lieu. Pour justement préparer cette introduction progressive, comme ça a été annoncé, de l'anglais à l'école. Et donc, cette année, on va commencer, comme l'a précisé le ministre, on commence au cours préparatoire, notamment, surtout ce que nous appelons généralement le CP, le CP. Donc, on va commencer au CP1, notamment dans les écoles pilotes qui ont été sélectionnées un peu partout sur le territoire. Donc le temps de voir ce que ça donne. Je pense que jusqu'à l'année prochaine, on aura suffisamment de personnel, parce que quand on dit on introduit l'anglais, ça veut dire qu'il faut véritablement avoir parmi les enseignants des gens qui ont la capacité d'enseigner l'anglais aussi, ou tout au moins recruter des enseignants d'anglais qui peuvent véritablement intervenir. Mais vu la configuration ou la façon dont notre école primaire est configuré, ou je veux dire est organisé, Donc, ce n'est pas plusieurs enseignants qui interviennent dans les classes au primaire, c'est le maître seul qui tient la classe du début jusqu'à la fin. Et donc, il va falloir qu'on dote tous les enseignants en capacité de pouvoir enseigner. Donc, tout le monde n'a pas cette prédisposition. Donc, le temps qu'on forme progressivement les gens, qu'on leur donne, qu'on trouve les manuels qui doivent même servir à enseigner et tout ça à tous les niveaux, dans toutes les classes, je pense que la phase pilote cette année permettra justement de voir clair jusqu'où on peut aller. Sinon, en somme, c'est une bonne réforme. Saluer un peu partout. Vous allez voir, depuis que cette annonce a été faite officiellement depuis samedi, vous voyez voir tout le monde est en train de saluer que c'est une bonne nouvelle. Donc, nous estimons que ça va, dans les années à venir, apporter quelque chose au Togo et aux citoyens togolais.
Je devine l'enthousiasme des tout petits. Hein. Moi, je me rappelle mon premier cours d'anglais en classe de 6e. Hein. Good morning, I am Mr. Babalola, your English teacher. Good morning, teacher. Good morning, my people. C'était si amusant, c'était si heureux. Eh bien, autre rentrée, ce sera le samedi 23 septembre, pendant que le Togo va se rappeler avec tristesse ce qui est entré dans l'histoire comme l'agression terroriste que notre pays a affronté. C'était le 23 septembre 86, ça c'était l'histoire, mais c'est ce jour que le Conseil national des patrons de presse a choisi pour tenir son assemblée générale, doublée de renouvellement des instances. L'occasion pour moi de saluer le tout premier président du CONAP, Jacques Jakouti, chapeau.
Merci, Saf.
Eh bien, Harry Miaou, président sortant du CONAP, le bureau actuel a mis un temps, mais enfin, l'Assemblée générale élective va se tenir samedi prochain.
Oui, vous avez si bien fait de dire que le bureau actuel a mis un temps. Je crois que je peux dire que c'est l'Assemblée générale élective la plus attendue depuis près d'un an. Et nous aurions dû faire cette assemblée, mais vous comprenez les difficultés que le monde entier a connues. Il y a la crise à la Covid-19, il y a la guerre en Ukraine, qui ont fait que nous n'avons pas eu les moyens nécessaires pour organiser cette assemblée.
La guerre en Ukraine?
Oui, mais les moyens, parce que quand je te dis cela, je sais que organiser une assemblée, Jakouti en sait, au niveau du CONAP, vous savez que c'est la seule organisation patronale qui est ancré dans toutes les préfectures et qui a un maillage sur le territoire. Donc, faire en sorte que les gens viennent en congrès et que vous puissiez organiser, il faut quand même prendre un petit recul.
Il faut des moyens, il faut de la logistique.
Voilà. Et c'est ce que, aujourd'hui, Dieu merci, nous avons de quoi pouvoir organiser cette assemblée. Effectivement, depuis le 17, nous avons fait appel à candidature. Les gens ont réagi. Nous avons quand même des gens qui ont postulé à divers postes et tout est fin prêt pour que le samedi, au niveau de Agora Senghor, à partir de 9h, nous puissions aller à cette assemblée et mettre sur pied un nouveau bureau qui mettra fin à nous, notre mandat qui fait 4 ans et demi, puisque depuis près d'un an, on a bouclé. Et donc, il faut, les camarades attendaient ça de pied ferme. Mm-hmm. Maintenant que tout est ouvert, je voudrais saisir vos micros pour appeler tous les membres du CONAP à venir massivement pour que nous puissions ensemble opérer le renouvellement de ce bureau tant attendu.
Juste avons rappeler que sont membres du CONAP des directeurs des organes de médias, presse écrite,
presse
radio,
en ligne,
télévision, presse en ligne.
Oui. Donc, c'est l'information. Nous avons fait notre temps. On ne peut pas danser et s'apprécier. D'autres viendront faire leur expérience et je prie que les choses puissent aller de façon décente et qu'on puisse passer à ce renouvellement. Parce que je sais que les confrères, les camarades attendaient ça depuis maintenant, ces choses faites, de Lomé à Saint-Cassé, d'Anéro à Vaux, un peu partout, qui est la mobilisation autour de la chose. Je sais que chaque fois qu'il y a une assemblée élective au niveau du CONAP, il y a beaucoup d'engouement, ça et là, les gens entendent des choses. Jakouti ne me démentira pas. Quand en 2018, je voulais venir, il y a eu beaucoup de choses, mais à la fin, le calme revient et l'ambiance revient et le CONAP reste ce qu'il est. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, nous rassure que le CONAP reste ce qu'il est et qu'il demeure la force en laquelle on le connaît et qu'il est effectivement la grande association qui représente toute la presse et qui fait l'essentiel pour
publie un communiqué rappelant les postes à pouvoir ainsi que les candidats en lice pour les différents postes. Bonne chance à ces candidats. Bonne assemblée générale. Jacques Jacouti, si le samedi, quand Ari Miao aura passé la main, le CONAP aura eu son quatrième président. Tu es le premier. Tu as passé le témoin à Jean-Paul Agbo, à Huelete, qui a fait deux mandats, qui lui-même a passé le témoin à Ari Miao, qui s'est accordé un bonus sur ces deux mandats. Et finalement, le samedi, nous aurons un tout nouveau président du CONAP.
Vous savez, ça, c'est très intéressant. Vous savez, l'alternance, c'est toujours une très bonne chose. Je crois que nous aurons déjà quatre présidents.
Quatrième
président au niveau du conseil de...
Pour dire qu'au CONAP, il y a alternance.
Bon, vous savez, moi je parle d'une alternance au niveau de l'organisation. Donc, je crois que c'est toujours une très bonne chose d'organiser ce genre d'élection. Et surtout, vous savez, c'est comme une pièce théâtrale. Chacun vient jouer sa partition et puis il s'en va. Et bon, je crois que c'est une très bonne chose. Et ce qui est plus intéressant, vous savez, le CONAP que nous on avait géré par rapport au CONAP d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Vous savez, nous on a eu le temps de gérer les crises. Vous savez, c'était pas du tout facile dans le temps. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué que de plus en plus on sent aujourd'hui cette liberté d'exercer et cette confraternité également au sein de cette organisation. Parce que nous, on a reçu beaucoup, beaucoup de flèches. Mais cela nous a formés quand même. Et ça forme. Lorsque vous êtes effectivement devant les journalistes, je me rappelle un jour, au cours d'une audience que le feu président Yadema nous avait accordé, il m'a regardé, il a fixé les yeux sur moi, il a dit, mais est-ce que tu crois que tu peux gérer ces gens-là? Parce que parmi eux, il y a les kamikazes, il y a tout. Il dit, bon, monsieur le président, c'est des confrères, on va gérer. Et je crois que cela a continué avec le président Forogna Singbe et tous les premiers ministres qui sont passés. J'ai senti que aujourd'hui, le CONAP constitue une grande association aujourd'hui, une association qui regroupe et les directeurs des radios, des télévisions, de la presse en ligne, la presse écrite. Je crois que c'est une bonne chose. Allons d'une façon où les autres organisations qui sont là aujourd'hui, patronales, puissent fédérer au sein, effectivement, du Conseil national des patrons de presse.
Merci. Lesquels journalistes travaillent beaucoup avec l'Internet, pourquoi pas avec Wi-Fi. Et nous apprenons, Didier Assogba, tu l'as écrit aussi, que l'ARCEP veut introduire une nouvelle réglementation dans les Wi-Fi zones. Qu'en est-il, Didier?
Oui, vous savez que l'activité du Wi-Fi zone... était devenue une activité comme ça fortuite, hein, créée par le besoin et l'intérêt des uns et des autres dans les quartiers, dans les localités. Et donc, certaines des personnes qui avaient donc le moyen de s'octroyer donc les lignes de connexion Internet ont trouvé cette idée-là de mettre, on va dire, des répéteurs ou des antennes qui pourra permettre à quelques personnes dans le quartier, dans les quartiers, dans les localités, de pouvoir être connectées à la même source Wi-Fi, donc avec en contrepartie, en payant quelque chose en contrepartie pour permettre à la personne qui a la ligne de pouvoir recharger, donc de payer le renouvellement d'abonnement. Ben très vite, vu l'intérêt et la rentabilité supposée autour de cette activité, on a vu que les opérateurs de téléphonie ont pensé pouvoir récupérer l'activité et avaient menacé d'ailleurs un temps de déconnecter tous ceux qui avaient tous ceux qui menaient l'activité Wi-Fi zone avec les connexions initiales qu'elles avaient chez eux soit à la maison, soit au bureau. Et donc, à l'époque, l'ARCEP avait réagi en disant que l'activité du Wi-Fi zone est une activité qui n'était pas interdite, puisque un opérateur avait semblé dire que c'était interdit. Donc, l'ARCEP a dit que c'était pas interdit, mais que devrait être encadré. Et on s'attendait à quelques ajustements autour de cette activité. Et c'est justement ce que l'ARCEP vient de faire. Avançant des arguments et se basant sur son cahier de charge pour pour dire et définir ce que peut être l'activité de, du FIZone, comment ça peut être un cadre, en donnant justement cette fois-ci la possibilité aux opérateurs de téléphonie mobile d'être la source où on installe d'abord les box Wi-Fi zone pour les opérateurs ou ceux qui veulent mener ces activités dans les quartiers.
Merci beaucoup.
Ce qui ne convient pas à plusieurs, ce qui ne convient pas à bon, beaucoup
de plus. Un changement fait toujours cause
oui,
toujours
oui,
des
justement, mais on verra.
L'ARCEP, faut-il le rappeler, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui a la charge de superviser tout cela et qui dit que désormais la fourniture des services de Wi-Fi zone doit être soumise à une déclaration auprès de l'ARCEP et les fournisseurs de services Wi-Fi sont tenus de se conformer à cette disposition dans un délai de 3 mois, délai qui court à partir du 12 septembre dernier.
Oui.
Donc au terme des 12 mois de moratoire, l'ARCEP va faire le gendarme dans le secteur.
Oui, le gendarme dans le secteur, surtout que l'ARCEP, au-delà de l'autorisation, c'est formuler une autorisation, une demande d'autorisation auprès de l'ARCEP pour être accrédité comme opérateur de Wi-Fi zone, l'ARCEP donne la possibilité cette fois aux opérateurs de téléphonie mobile d'être de venir installer des boxes pour ceux qui mènent l'activité. Et donc à partir de ce moment-là, si soit vous n'êtes pas déclaré auprès de l'ARCEP, sinon vous n'avez pas l'autorisation de l'ARCEP, l'ARCEP donne la possibilité aux opérateurs de vous déconnecter votre connexion qui ne pourra plus servir à faire Wi-Fi zone, surtout que l'ARCEP menace de venir tous ceux qui ont mis les antennes et tout ça de descendre, et voilà justement la gendarme.
Merci, nous avons beaucoup parlé de rentrée et qui parle d'école parle de récréation aussi, n'est-ce pas? Eh bien, nous allons en récréation. Et nous rebondissons dans quelques minutes avec vous. Jusqu'à cet instant, vous êtes auditeur. Mais après la pause, vous devenez co-animateur. 93.5. Nous sommes ici au studio disposés à recevoir vos commentaires, vos questions. Nous vous prions juste de vous limiter au sujet débattu aujourd'hui. Déjà, premier auditeur inscrit au CP1, c'est monsieur et madame?
Au CP1, ah oui, au CP1B.
Ok, c'est monsieur?
Benoît Dagoué.
Okay.
Oui, bonjour le plateau, bonjour monsieur Sofgao.
Bonjour, oui.
Moi, je voulais parler de deux choses. Vous avez parlé de manque, le pénurie des banques.
Oui.
Vous savez, comme on l'a dit au président Emmanuel Macron, il faut qu'on change la marmite. Comme il a refusé de changer la marmite, maintenant il n'y a que le coup d'État. Donc si le président son excellence Faure Gnassingbé ne change pas la marmite, il y aura toujours ça. C'est parce que le maçon prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Comme vous l'avez dit, nous ont dit dans ce pays que le Togo fait un stock de 3 mois. Mais avant, quand on augmente, ils augmentent vite. Quand on diminue, ils diminuent tard. Maintenant qu'il y a les motos électriques, maintenant il y a embouteillage sur la mer. Merci. Le second. Je ne sais pas si j'ai mal quand vous dites que le président de la République a offert des cahiers. Le président de la République, il fait quel travail? À pas être président de la République. Je prends un exemple pour terminer. Je prends l'exemple de Barack Obama et de Michel Obama. Ils, actuellement, avant de être président, ils travaillent, ils étaient avocats, je ne sais pas trop. Et ils gagnent leur argent là-bas. Ils sont présidents, ils ont laissé et Michel Obama fait des œuvres.
L'ami Benoît Dagoué, nous n'avons que cité le nom de Faure Gnassingbé. Vous avez suivi les reportages que d'autres médias avaient fait quand le don avait été offert, n'est-ce pas? C'est vrai, on peut débattre du sujet. Le président de la République est-il habilité, institut personnel, à poser des actes d'ordre humanitaire, ou bien s'il le fait en son statut du président de la République au nom de tout le pays? Là, le débat reste ouvert. L'ami Benoît Dagoué.
Alors, je vous dis, si on peut me dire aujourd'hui que... Pardon, je le suis maintenant. Si on peut me dire aujourd'hui que le président de la République pour son le salaire du mois de septembre, il opta pour qu'on puisse acheter des cahiers pour les enfants.
Je vous concède, le débat reste ouvert, mais peut-être que nous le reposerons une de ces prochains jours. Maintenant, soyez galant et élégant, cédez la place aux autres. Deuxième élève inscrit au CP2B, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
C'est Pelé.
Pelé.
Et je salue le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Et je pense que l'année passée, le chef de l'État, président Faure, a dit qu'il doit aider les parents d'élèves. Je ne sais pas s'il n'a pas fait ou pas, mais c'est qu'il n'a pas fait. Et c'est le 26 avril, au cours de son entretien, qu'il a dit que bon, il ne sait pas qui il faut donner. Donc tout ça là, je pense que.
L'ami Pelé, vous parlez sûrement de la subvention de 3 milliards que le chef d'État avait annoncé pour soulager un peu les parents d'élèves.
Voilà.
Oui.
Après tout, il a dit qu'il ne sait pas qui est qui. Mais le président de la République va savoir tout ça là avant de parler.
Donc vous souhaitez qu'on remette la subvention là et qu'on nous dise comment ce sera réparti au bénéfice des parents, c'est ça?
Automatiquement.
Merci beaucoup.
Deuxième question, c'est concernant M. Ali Kanyaou.
Oui.
Je voulais qu'il nous éclaircisse un peu comment Poutine voulait empêcher l'assemblée du CONAP. Lorsqu'il parle de que c'est la guerre de l'Ukraine qui a empêché tout le temps au Togo, là.
Oui.
Pour qu'il nous éclaircisse un peu.
Merci beaucoup. Harry Miaou va vous revenir dans un moment. Oui, bonjour.
Oui, le troisième. Good morning, Charles.
Good morning, Mr. Gado.
How do you feel?
I thank God.
You thank God, okay, no problem. Bon, je voulais parler un peu du CONAP.
Oui.
Vous savez, peut-être notre ami Chaniaou, là, voulait faire un troisième mandat et M. Jakouti a refusé.
Non.
Mais n'ont pas refusé
le bureau. Jakouti a cédé le mandat depuis de nombreuses années.
Ah, pourquoi lui, là, n'a pas fait...
Mais Harry Miaou a expliqué les difficultés de parcours, mais comme il est là, lui-même, il va vous préciser ses idées.
C'est pourquoi je vais le taquiner un peu.
Ok, merci. Hein.
Bon, les deux, Jakouti et Chaniaou, je voudrais leur demander d'aller humblement auprès du gouvernement pour savoir la dette extérieure du Togo. Et aller vers le ministre des TP pour voir combien on leur avait donné pour nos routes. Et puis comme ça, nous allons arrêter de rassurer les maires. Hein. Mm-hmm. Donc il faut lundi matin, ils vont nous rendre compte. Merci, bonjour.
Je vous en prie. Thank you very much, Mr. Garo. Le suivant, bonjour.
Hello.
Oui.
Good morning, ladies and gentlemen.
Good morning, Patrick.
How are you?
I'm fine.
Okay, I'm also fine.
Mm-hmm.
Tout d'abord, j'aimerais comprendre quelque chose. Hein.
Oui.
Bon. Monsieur Sass, pourquoi le ministère du Commerce ne peut pas avoir un stock en réserve en cas de pénurie pour servir la population, ou ne serait-ce qu'une semaine ou 5 jours?
Mm-hmm.
Je me le demande. Puisque, vous savez, actuellement, c'est ça. C'est pourquoi on dit la guerre en Ukraine là, nous a fait découvrir beaucoup de choses. Hein. Est-ce que ça, vous savez que s'il arrivait que le monde ou bien une partie du monde s'effondrait, est-ce que vous savez que les Blancs ont prévu des céréales, c'est-à-dire nos maïs, le mie, tout ça là, qu'ils ont stocké quelque part si le monde venait à disparaître, c'est-à-dire s'il ne restait que peut-être 3 ou 4 hommes, que ces céréales reviennent pour qu'on puisse encore recevoir? Est-ce que vous êtes au courant?
Non, de ça? Les États ont toujours des réserves stratégiques.
Pourquoi pas, on ne peut pas l'avoir au niveau du carburant?
Merci. Nous renvoyons la question directement à Dame Nivedor. Merci beaucoup, Patrick. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour, M. Sass.
Oui.
Je suis Kossi de Sabado.
Kossi de Sabado, nous vous écoutons.
Ah, d'accord, je salue le plateau.
Merci.
Moi, je veux rebondir par rapport à la pénurie du carburant.
Mm-hmm.
Je voudrais donner un témoignage.
Oui.
Hier, j'ai quitté la maison pour me rendre à Carrefour Y. Je vois que mon feu est allumé. C'est-à-dire que je réserve du carburant, quoi.
Oui.
Je vais acheter le carburant. Si je n'en fais pas la présence d'esprit de venir jusqu'à Venoux, j'allais avoir la panne sèche et rester dans la circulation.
Mm-hmm.
Maintenant, la station cap qui se trouve au niveau de la Pampa,
oui.
Quand vous dépassez la Pampa, c'est Bukaru.
Oui.
Il m'avait dit qu'il n'avait pas le carburant. Mais ce matin, je vois S'ils ont le carburant, ils ont trouvé ça où?
Ah, peut-être la nuit, un camion venu, serait peut-être venu les livrer.
Un camion venu les livrer.
Peut-être, je parle au conditionnel.
Monsieur Sage, moi je dis carrément que ce que M. Dangoutier a dit, c'est vrai. Les gens là, ils ont les carburants. Ils ont refusé de vendre. Quel camion est venu livrer l'essence là au cap d'Avenue hier? Parce que je me suis dit, c'est là-bas les grands, grands viennent prendre les camions avec les bons.
Ah, donc vous êtes un grand?
Non, je ne suis pas un grand.
Vous êtes allé vous approvisionner là où les supposés grands viennent.
Pas cette station-là.
Ok, maintenant nous connaissons les grands, nous connaissons la minorité, vous savez quoi, c'est pour la bonne humeur, c'est pour la bonne humeur. Le suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour.
Oui.
Oui, bonjour, Sof, comment ça va?
Didier.
Oui, ça va bien.
Vous manquez d'énergie, Didier.
Non. Le temps est doux ici, là, le temps est très doux.
Ou bien vous n'avez pas de carburant?
Non, moi j'avais du carburant ici, j'ai même payé le carburant tout à l'heure.
Ok.
C'est moi. Je ne suis pas à Lomé. Bon, je voulais rappeler à notre ami Tanyao que si on appartient à l'État, aujourd'hui, ne sait pas que Thion n'appartient pas à l'État. Ça appartient à l'État. C'était Shell. Quand c'est les partis, c'est revenu dans le gérant de l'État. Mm-hmm. Et puis aussi, je voulais aussi rappeler à M. Tanyao, la semaine passée, on a parlé des institutions qui étaient en fin de mandat. On ne savait même pas que Konak aussi était en fin de mandat.
Oh, lui, Didier. Pas parler de ça. Oui. Didier.
Oui, et puis et puis je voulais le rappeler aussi là, même jusqu'à présent son association, l'association des journalistes pour le truc là aussi, ils sont en fin de mandat, ils n'ont pas réélu la présidence.
Laquelle association?
Association des journalistes pour le quoi maritime là.
Ah ok. Didier, aujourd'hui nous parlons qu'on a, parce que Didier.
Oui,
chaque chose en son temps.
Ok. Merci. Et puis merci, ça aussi. Il faut qu'on sérieux maintenant. Il faut qu'on parle aussi. Hein. Chaque fois qu'on nous parle que le chef de l'État fait ces dons-là, on devait apprendre aux gens que le chef de l'État, c'est pas à lui de faire les dons. On l'a élu en tant que chef d'État de s'occuper de l'État. C'est pas à lui. Il a qu'à garder ses propres sous pour lui, construire les sous pour ses enfants. Mais ce que nous lui demandons, c'est qu'avec le peu que l'État lui donne, le peu que l'État en a, il faut qu'il gère ça bien. C'est ce que nous demandons.
Merci pour ce conseil au chef de l'État. Il saura bien en faire bon usage. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Oui, monsieur Kofi.
Kofi.
Oui.
De quel quartier, s'il vous plaît?
Je vous appelle de Hidjanaoué. Oui.
Nous vous écoutons.
Oui. Moi, je voudrais parler de Wi-Fi Zone. Il y a des gens qui parlent dans le truc, là.
Non, allez-y.
D'accord. Je voulais parler de Wi-Fi Zone, là.
Mm-hmm.
Bon, l'ARCEP, je ne comprends pas quelles réglementations l'ARCEP veut faire. D'abord, ce qu'on nous sert comme Wi-Fi même, ça ne sert à rien en qualité. Et surtout pour parler de la durabilité même de la chose, puisque des fois vous pouvez l'utiliser 25 jours ou 20 jours dans le mois, mm-hmm. Et puis ça ne travaille plus. Ceux qui font une fusion là, ils gagnent combien ils gagnent? La CEP est là pour nous ou bien l'organe est là pour protéger les opérateurs.
L'ami Kofi,
oui.
Je crois que l'ARCEP est ouvert. Hein, vous pouvez vous y transporter et demander.
Je n'ai pas fini là, s'il vous plaît.
Ah, okay.
J'ajoute ce point rapidement.
Oh, okay.
L'ARCEP était là lorsqu'on nous a coupé l'hélico, qu'on avait eu du mal à avoir. On avait même du crédit dessus, ça a été coupé, et silence radio. Pourtant, là, c'était là. Merci.
Vous êtes dans votre droit de vous plaindre, hein, je pense que c'est ça, mais l'exercice du droit, hein, si vous estimez que vous êtes lésé dans vos droits, vous avez parfaitement le droit de vous plaindre directement devant l'ARCEP, pourquoi pas devant la justice, et que les torts vous soient réparés. Alors, Ari Niaou, tu as été interpellé. Pourquoi ce bonus accordé à ton deuxième mandat dans l'organisation de l'Assemblée générale élective?
Ouais. Et en quoi est-ce que la guerre de l'Ukraine a influé
Non, peut-être, je voulais dire que le monde entier traverse une crise. Et j'ai expliqué que le CONAP a un ancrage national et que les membres du CONAP sont dans toutes les préfectures et pratiquement dans toutes les régions de ce pays. Et donc, pour tenir un congrès, il faut un préacquis d'abord. C'est pour cela que nous avons tenté à plusieurs reprises, hein, ça n'a pas pu tenir. Mais pour aller à un congrès, je ne dirais pas, disons un congrès national, parce que nous sommes partout.
Non, plutôt assemblée.
Une assemblée nationale comme celle-ci, il faut quand même avoir rassemblé certains moyens logistiques et autres quoi. C'est ce qui fait que nous n'avons pas. Mais pour dire la vérité, il y a des difficultés liées à ça. Djakouti, même en son temps, avait connu ces difficultés. Il n'a pas pu tenir dans le temps. Et je sais que c'est parce qu'il s'agit du CONAP que ça fait tant d'engouement. Il y a plusieurs associations qui ont fait même un an, deux ans, un an et demi de bonus avant d'aller à leur assemblée. Personne n'en a su, personne n'en a parlé.
Arémiaou, je te rappelle la pensée du jour qui dit, hein, ce n'est pas parce que la vie n'est pas élégante qu'il faut se conduire comme elle.
Oui, je sais.
C'est comme ça qu'on a commencé.
Mais j'explique les difficultés que les autres aussi ont dû avoir pour ne pas tenir dans le temps. Si vous voulez, je peux aller directement. Le PPT a fait également plus d'un an. D'autres aussi en ont fait. Et avant de tenir, ça veut dire que...
Ce que nous attendons de tout le monde, hein, c'est que chacun fasse son travail dans le temps.
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Malgré les difficultés.
J'explique qu'il y a eu des difficultés de part et d'autre, au point que les gens n'ont pas pu organiser leur assemblée dans le temps. Ce n'est pas que nous avons des prétentions de maintenir.
L'assemblée va tenir le samedi.
Samedi, Inch'Allah. Et tout finira.
Merci beaucoup. Merci. Alors, tu as la parole, tu la gardes pour ton carton de fin d'émission.
Non, je n'ai pas de carton.
Merci de passer. Didier Assogba, une minute.
Je n'ai pas de carton.
Mm-hmm.
Mais
une précision à faire.
Mais non, la précision, c'est sur les évolutions du problème de carburant.
Mm-hmm.
Donc, il paraît que les solutions sont en train d'être trouvées. Je reviens dessus. Tout ce que nous, on veut là, que les gens se battent autour ou pas, que ce soit des tankers ou pas, que ce soit les chauffeurs ou pas, tout ce dont nous on a besoin au Togo là, c'est que quand on va dans les stations, on puisse trouver du carburant pour mener nos activités, parce que plein de gens n'ont pas pu se rendre à leur activité, ils font les tours des stations parce qu'ils n'ont pas de carburant, et c'est la vie économique qui est paralysée comme ça. C'est pas bien pour un pays, surtout un début de semaine, c'est pas
bien. Alors, il y a un auditeur qui réagit, hein, dit ne pas comprendre comment le gaz, hein, butane peut être moins cher au Burkina,
2000.
Pays enclavé, pays sous sanction. Comment le gaz peut être moins cher au Burkina que chez nous aussi au Togo?
Il faut parler du Niger aussi.
Si quelqu'un peut lui expliquer, il sera content. Peut-être que Jacques Djakouti, tu pourras lui expliquer.
Non, vous savez, ça, je voudrais lancer un appel solennel au président de la République d'essayer d'avoir les pôles dans les quartiers, c'est-à-dire que les pôles d'écoute. C'est vrai qu'il y a les services de renseignement qui sont là, qui peuvent vous l'informer, mais il faut avoir ces pôles d'écoute-là, ça peut vraiment beaucoup aider. Je connais un chef d'État de la sous-région, que je ne vais pas donner le nom, qui a développé ces pôles-là. Aujourd'hui, je vous dis, à l'instant T, ce qui se passe à Garpanga, il est au courant. Et immédiatement, les services sont là pour réparer tout ce qui est problème dans ces localités-là. Vous savez, vous pouvez avoir des collaborateurs, hein, souvent qui ont peur d'aller vous dire des vérités. Mais il y a certains qui n'ont pas peur de le faire. Donc je crois que si le patron peut avoir effectivement ces pôles d'écoute, ça peut vraiment l'aider. Je voulais m'arrêter en saluant notre ministre de la Communication, Madame Kugan.
Florence
Yawa, que j'ai eu personnellement la chance de rencontrer, le plaisir d'échanger. Et je souhaite plein succès à son travail, et aux journalistes, le devant est bon pour nous. Plaise à Dieu, que Dieu nous aide afin que nous puissions effectivement affronter les horizons qui seront meilleurs également pour nous.
Merci. Bonne chance. L'occasion de rappeler à notre ministre Florence Yawa Kugan qu'elle est porte-parole, elle est aussi porte-parole du gouvernement pour des situations dont nous avons parlé. Si un ministère doit être lent dans la communication, alors que elle s'assume en tant que porte-parole du gouvernement, que nous ayons l'information officielle et qu'on ne soit pas obligé de nous lancer dans des supputations ici et là.
Et il faut surtout quelle est la parole du gouvernement pour la porter.
Elle doit la voir.
Ben, si elle n'en a pas.
C'est fini, la semaine est lancée. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra. Mais d'ici là, célébrons la vie, c'est un trésor unique.